Gebertová.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour et bienvenue dans Culture sans frontières. Pour les fêtes de fin d'année, je vous propose un petit best-of de ce qui s'est passé dans le domaine culturel pendant l'année écoulée. Je vous propose donc de retrouver les moments les plus intéressants passés avec des personnalités de la vie culturelle tchèque ou tchéco-française. Tout cela, ce sera dans la rubrique de cette semaine et dans celle de la semaine prochaine. Alors, bonne écoute de notre programme.
Cesta je prach a štěk a udusaná hlína a šedéš moury.
En cette année 2008, année d'anniversaire et de commémoration, c'est à mon sens les 40 ans écoulés depuis l'invasion soviétique de 1968 qui a été l'événement le plus important. Symbole de ce moment tragique de l'histoire tchécoslovaque, les photos de Josef Koudelka ont fait le tour du monde et ont rendu célèbre son auteur, d'abord de façon anonyme, avant qu'il ne reconnaisse avoir réalisé ses clichés. Il était à Prague en août dernier pour inaugurer une exposition rétrospective. Il s'est souvenu pour nous de cette fameuse nuit du 20 au 21 août 1968.
Jednou jsem se vrátil z fotografování cigánů v Rumunsku.
Je revenais juste d'un voyage en Roumanie où je photographiais les Roms. Je suis allé dormir et au beau milieu de la nuit, vers 3 heures, le téléphone a sonné. C'était une de mes amies qui m'a dit « Les Russes sont ici ». J'ai raccroché en pensant à une blague, mais elle a rappelé 3 fois, elle m'a dit d'ouvrir les fenêtres et d'écouter. Et là, j'ai entendu le bruit régulier des avions. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai pris mes appareils photo et je suis sorti.
40 ans plus tard, Josef Koudelka est devenu le photographe tchèque le plus connu et le plus reconnu à travers le monde. Alors pourquoi justement ces photos et non pas d'autres prises par d'autres photographes sont-elles devenues célèbres? On écoute tout de suite Anna Farova, historienne de la photo et amie de Josef Koudelka.
Parce qu'elles sont tellement prégnantes. Il y a beaucoup de photographes qui ont photographié ces événements, naturellement. Il y a des bonnes photos. Mais justement, c'est la justesse de la vision. Ces photos toujours sont... On ne les oublie jamais, si, celles qui sont choisies les meilleures. Alors, dès qu'on les voit, on les a dans la mémoire pour toujours. Ce que je souligne toujours, c'est son esthétisme. Je dis que comme il y a des personnes qui ont la l'ouïe absolue, alors lui, il est un visionnaire absolu, la vision, l'œil absolu. Il vraiment, il voit et il dépeint la réalité par son objectif photographique avec une maîtrise absolue. Et c'est ce qui est dans toutes les étapes de son œuvre, que ce soit les événements, que ce soit le théâtre, les gitans, ensuite l'exil et même les grandes photos panoramiques. Il y a toujours cette spéciale composition, la suite des lignes, des ombres, de gris, de blanc, c'est dans une harmonie totale que les photos sont composées, mais avec une virtuosité, une brillance, mais ce n'est pas quelque chose de art pour art, n'est-ce pas? Il y a toujours... ces photos parlent en même temps. Il y a cette maîtrise de tous ces éléments dont j'ai parlé, et en même temps, il y a un esprit qui est unique.
Et en se replongeant dans les milliers de clichés de ses archives pour la confection de son ouvrage « Invasion 1968 », paru à l'occasion de cet anniversaire, Josef Koudelka a pu vérifier un principe éternel, la fragilité de la mémoire.
Il y a une chose qui est intéressante quand on se plonge ainsi dans les archives. La mémoire peut être trompeuse, mais pas les photographies. Vous pouvez être totalement persuadé qu'un événement s'est déroulé totalement autrement qu'en réalité.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe.
On passe à un autre sujet maintenant. En juin dernier, le festival de la culture rom Chamorro accueillait le guitariste manouche d'Alsace, Jörgi Löffler. Ce virtuose de la guitare est souvent comparé au grand Django Reinhardt. Alors, est-ce que cette comparaison n'est pas un poids un peu lourd à porter? Son frère Gigi Löffler avait d'abord tenu à répondre avant de laisser la parole à Jörgi.
Au sujet de Django Reinhardt, c'est un sujet très sensible parce que se proclamer le digne héritier de Django Reinhardt, non. Se proclamer de sa musique, oui. Mais un Django Reinhardt, il y en a que, hein. Voilà. Et puis on va dire que les restes qui suivent, qui sont là maintenant, c'est des super produits dérivés, quoi, des très bons produits, quoi. Voilà. Non, c'est vrai que ça fait plaisir d'être un des héritiers de Django, parce que toute personne qui fait du jazz manouche, qu'il soit plus ou moins bon ou pas, c'est un héritier de Django, logiquement.
Est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire du jazz manouche? J'allais dire que finalement, vous tombez plutôt à un bon moment. Ce type de musique est plutôt en vogue.
Il paraît que oui, mais bon, c'est une musique qui marche depuis Django, quoi. Il y a énormément de musiciens qui joue depuis longtemps, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus, cette musique est beaucoup plus, populaire, voilà, ou commercialisée comme il faut, et puis surtout grâce à Internet aussi.
Donc, vous venez d'Alsace, un territoire qui est proche finalement d'ici, de la Bohème, de ces influences des Roms de l'Est, voilà, ou d'Europe centrale. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la musique, par exemple, des Roms ici, j'allais dire, en République tchèque, que vous avez pu découvrir, et ce qui se fait, par exemple, en Alsace?
Oui, il y a beaucoup de similitudes, quoi. Bon, en sachant que Django, à mon avis, c'est un musicien qui a exploité les musiques américaines, quoi, en fait, le jazz, plus jazz traditionnel, et puis les musiques des pays de l'Est, quoi. Et puis je pense qu'il en a fait un sacré bon petit mélange, quoi, en fait. Et c'est pour ça que ça se ressemble, quoi, vachement. On est beaucoup influencé par les musiques de l'Est. Parce que, à la base, tout manouche, on n'écoutait pas de guitare avant. Enfin, je sais que mes grands-parents, tout ça, c'était que le violon. Et puis, on trouve ça ici, c'est les plus grands ici, quoi, dans les pays de l'Est.
Qu'est-ce que c'est pour vous, la guitare? Comment est-ce que vous la définiriez en un mot? Est-ce que c'est une extension de vous-même ou c'est quoi?
C'est ma deuxième femme.
Et comme Jörgi Löffler est plus un homme de musique qu'un homme de mots, c'est sur ses bonnes paroles qu'il a pris sa guitare, tandis que son frère Gigi souhaitait encore préciser.
Jörgi disait à l'instant qu'en quoi c'est sa deuxième femme. Ça veut dire qu'il a sa femme de cœur, et en fait, la guitare, c'est une longévité du corps, de l'esprit, de l'âme, voilà. Donc quand il se lève le matin, quand il va jouer de son instrument, il va être plus ou moins infidèle, mais c'est spirituel, ce qu'il voulait dire.
L'année dernier, le chanteur et harpiste breton Alan Stivell a donné un concert et a même joué avec un groupe tchèque ami, České srdce, en français le cœur tchèque. Car en effet, entre Alan Stivell et les Tchèques, c'est une longue histoire, comme il l'avait d'ailleurs confié lui-même avant son concert.
Un Tchèque qui s'appelle Réon, un peintre tchèque qui habitait plusieurs années en Bretagne, on s'est connus et donc lui avait gardé évidemment ses relations avec la Tchéquie et connaissait Michal Karel du Bohemian Heart de l'époque, et donc c'est un petit peu lui qui a voulu nous marier un peu et ça s'est acheminé vers un truc Théâtre Lucerna, à ce concert, ce Noël celtique de 91, qui était à peu près un an après la Révolution, un an ou deux après la Révolution. Donc ça a été quelque chose de vraiment très très fort, un des plus grands souvenirs de ma vie.
C'était après la Révolution, c'est d'être une atmosphère particulière pour quelqu'un qui arrive comme ça de l'Ouest.
C'est tellement particulier. Puis en fait, il faut dire qu'en plus, j'étais déjà venu jouer sous le rideau de fer. J'étais venu jouer en 85. En 85, on a l'impression de se trouver dans un film d'espionnage, de je sais pas quoi. Arrivé quelques années plus tard, c'est la liberté, c'est tout ça. Et puis ça vient d'arriver, quoi. Donc c'est aussi une émotion d'arriver de l'Ouest, quoi. La communication est là et on voit que les gens sont très très ouverts, ont envie d'entendre des choses. Il y avait déjà une petite minorité qui me connaissait déjà en 85 puisque des gens avaient fait le mur. Tu vois, quelquefois pour aller dans des festivals, des gens, ça arrivait quand même à certaines personnes de passer le rideau de fer quand même et qu'elle est au festival de Reading en Angleterre, etc. Donc il y avait par exemple ramené des cassettes de moi qui se retrouvaient dans des discothèques. Et puis, il n'y a pas eu que ça, parce qu'en fait, ça a été que Bohemian Art m'a étonné musicalement. C'est que on a fait une petite répétition et j'étais très très surpris c'était tout à fait au point. Donc on a fait 3-4 et ça, il n'y avait pas grand chose à redire, quoi, par rapport à ce qu'il y avait à jouer là, le soir.
Vous avez donc trouvé des affinités avec ce groupe. D'ailleurs, vous l'avez même fait venir en France.
Oui, j'ai invité Michal, donc une partie du groupe seulement, hein, mais à venir jouer notamment au Stade de France pour la soirée au Stade de France de 2003. Et donc on a eu l'occasion de se voir. Je les avais déjà invités en 93 pour mon album Again, donc on garde des contacts.
Enfin, pour finir, la première partie de ce best-of de la culture 2008, le dernier spectacle des talentueux frères Forman, Obludarium, a enfin été donné en République tchèque après avoir tourné en Bretagne. La femme à barbe, le lilliputien, la petite fille géante ou encore la sirène, tout ce petit monde étrange et dérangeant, et bien plus encore, s'est retrouvé sous le chapiteau de ces éternels saltimbanques, dignes fils de leur célèbre père réalisateur. Autrefois, on montrait les êtres difformes dans les cirques. Aujourd'hui, les frères Petr et Matthieu Forman décident de leur rendre hommage avec tendresse et humour, un peu à la manière de Todd Browning et de sa monstrueuse parade dans les années 1930. Obludarium, c'est un jeu de mots entre le mot obluda, monstre en tchèque, et planétarium ou aquarium, explique Petr Forman avant de poursuivre.
Bon, Obludarium, tout simplement, c'est, avec mon français, c'est, désolé, on peut dire, c'est entre le cirque, cabaret, bar, nightclub, je sais pas. Mais tout ça, c'est une inspiration, tous ces endroits, c'était une grande inspiration pour nous. Mais derrière ça, on a essayé de créer un spectacle, qui découvrir de petites histoires, des personnages qui sont dedans, dans Obludarium. Et puis Obludarium, je ne sais pas si ça se comprend bien le nom, mais c'est, chez nous c'est un peu comme Freak House.
Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ces personnages un peu en marge, c'est-à-dire je pensais à la femme à barbe, au nain, à tous ces personnages qu'on retrouve, justement ces monstres d'une certaine façon?
Alors c'est un monde qui nous toujours provoque, ou qui nous, on est peur de voir les gens qui sont handicapés ou qui sont, c'est pas, bizarre. Mais en même temps, on n'arrive pas de tourner les yeux de l'autre côté. On est obligé de regarder si on se croisait.
Voilà, c'est la fin de ce premier best-of de la rubrique Culture sans frontières pour l'année 2008. Retrouvez la deuxième partie des meilleurs moments dès la semaine prochaine, même horaire, même fréquence. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes ou que vous nous écoutiez dans le monde. À bientôt, ahoy!
Vous avez dit la République.